9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
AVS à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bon matin à tous. Karima Shadibaou est là. Bonjour Karima.
Bonjour Philippe, bon matin tout le monde. Belle journée aujourd'hui.
Vous êtes une star des réseaux sociaux et vous sentez bon.
Ça y est, il commence.
Mais c'est vrai.
Bon, mais tant mieux alors, je sens bon.
C'est vrai. Vous avez toujours senti bon, mais vous n'avez pas toujours été une star des réseaux sociaux. Non, quand je vous ai connu, vous n'étiez pas encore une star des réseaux sociaux.
Non, non, j'espère pas l'être, Philippe. Non.
Si, vous êtes maintenant dans ces réseaux virtuels.
En fait, on n'a pas trop le choix, en fait, d'y être pour propager, en fait, la bonne parole. Je veux dire ça comme ça. Voilà, pas pour... On va en parler, je pense, avec
notre invité. Oui, c'est notre sujet de la journée. Notre invité s'appelle Lucie Ronfaux-Hazard. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialisée en nouvelles technologies et vous venez nous parler de votre livre qui s'appelle « Internet aussi, c'est la vraie vie » aux éditions La Ville Brûle. Alors moi, je dis toujours, est-ce qu'Instagram, c'est la vraie vie ? Ah, vous voulez que je vous montre ?
Oui, comme ça, on va le montrer, voilà. Parce que l'émission est filmée. Donc,
mais voilà. C'est vrai que c'est une question qu'on pose souvent, est-ce qu'Insta, c'est la vraie vie ?
Moi, je pense que oui. Enfin, c'est ma théorie dans le livre, c'est que, en fait, quand on a commencé à travailler sur ce livre avec mon éditrice, j'ai repensé un peu comme moi, j'étais ado. Ça commence à remonter, hein. J'ai 30 ans. Et moi, je fais partie de la première génération qui a eu accès à Internet quand on était ado. Donc, j'ai eu accès à Internet à 11, 12 ans.
Et, oui, mais enfin, vous l'avez pas toujours connu.
J'ai pas toujours connu.
Vous avez connu la vie. Avant Internet.
Alors justement, parce que moi à l'époque j'avais une utilisation qui était une utilisation de les smartphones ça n'existait pas, donc j'étais sur mon ordinateur, j'étais vraiment une geek et mes parents ils me disaient beaucoup Lucie décroche, Internet c'est pas la vraie vie, tes amis d'Internet c'est pas la vraie vie, etc. Et ce que je trouve amusant c'est qu'aujourd'hui on est en 2022, Internet a complètement pénétré la société en fait. Enfin je veux dire l'Internet de mon époque est plus du tout le même que l'Internet d'aujourd'hui. Et pourtant, on dit encore aux ados qu'Internet, c'est pas la vraie vie. Moi, je suis pas tout à fait d'accord là-dessus.
Pour vous, c'est la vraie vie et c'est ce qu'on va voir ce matin. On accuse souvent les ados d'être accros à leur smartphone. Pourquoi est-ce que c'est une accusation qui laisse les ados de marbre ?
Moi, je pense que dire à un ado de ne pas faire quelque chose, c'est le meilleur moyen pour qu'un ado fasse quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes d'accord là-dessus.
Complètement.
Et je pense aussi que la question de l'addiction, elle est un peu compliquée parce qu'en fait, on est tous et toutes plus ou moins accro au niveau de technologie. Et je pense que les ados, ils le savent bien et que du coup, ils trouvent ça un peu hypocrite de la part des adultes, ce qui est plutôt vrai, je pense. L'addiction.
C'est-à-dire qu'on n'est pas des modèles.
On n'est pas des modèles. Et moi, ce qui m'embête quand on parle de l'addiction, c'est que oui, on va beaucoup sur Internet, mais déjà, on n'a pas vraiment le choix. On est dans une société dans laquelle, la sociabilité, le travail, la recherche d'emploi, les études, enfin, tout passe par Internet. Donc, c'est compliqué de dire à un ado de lâcher son smartphone quand le smartphone fait partie autant de notre vie. Puis après, il y a un autre sujet sur lequel moi j'insiste beaucoup, c'est la responsabilité des plateformes. En fait, il faut savoir que quand on va sur Facebook, sur TikTok, sur Snapchat, sur YouTube, en fait, toutes ces plateformes, leur but, c'est donc de faire de l'argent grâce à des pubs. Et donc, du coup, ils veulent attirer notre attention le plus longtemps possible. Mmh. Et du coup, pour ce faire, ils vont mettre en place des techniques de design, si vous voulez, pour attirer notre attention le plus longtemps possible. On appelle ça les dark patterns. Ça fait un peu peur, mais c'est un vrai concept. Et donc, par exemple, c'est, vous savez, le petit point rouge de la notif quand on a une notification. Ça attire ça apprend au cerveau, en fait, que ça, c'est une information et donc que ça attire notre regard. Donc, du coup, oui, les ados sont probablement en partie accros à leur smartphone, mais c'est pas complètement leur faute.
Oui, et puis on utilise quand même un mot qui est assez fort quand on parle d'addiction. C'est pas vraiment de l'addiction, parce que l'addiction, c'est une pathologie. Et sinon, dans ce cas-là, on va dire qu'on est tous malades. Donc, l'addiction, et c'est ce que j'explique moi souvent aux parents, ils me disent « oui, il est addict ». Je dis « attendez, addict », donc c'est rentré dans le langage commun, d'accord ? Ça veut dire simplement qu'il a du mal à s'en passer. D'accord ? Ça ne veut pas dire qu'il va développer en fait des comportements pathologiques, c'est-à-dire des besoins, de manques, surtout comme quelqu'un qui est addict, d'accord, à une substance, un narcoleptique, quelque chose comme ça. D'accord ? Et ça, vraiment qu'on fasse la nuance, parce que sinon tout de suite on va se mettre sur nos grands chevaux et être dans la peur de dire « oh là là, j'ai un enfant qui a dit ». Non, l'addiction, c'est pas ça. On est accro, oui, on est attaché à ça, oui, on y va tout le temps, oui, on peut pas faire autrement, oui. Maintenant, comment on organise ça et comment on cadre tout ça ?
Alors ce matin, on va surtout s'intéresser à l'éducation de l'utilisation d'Internet, puisque nous, effectivement, nous n'avons pas grandi avec ça, donc non. On a appris en même temps que ça s'inventait. Mais vous, en tant que parent, eh bien, vous devez éduquer les enfants, tant que vous le pouvez, à utiliser les réseaux. Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de commencer et qu'est-ce que les parents doivent transmettre, Lucie ?
Alors déjà, il ne faut pas partir du principe que parce qu'un ado va beaucoup sur Internet, qu'il comprend comment ça marche. Je pense que c'est un peu un cliché qu'on a sur les jeunes, vu qu'ils sont beaucoup sur leur smartphone, pour eux c'est un peu inné. Et ça, je pense que ce n'est pas vrai, je pense que c'est un cliché, qu'il y a beaucoup d'ados qui sont tout aussi perdus que les adultes. Donc ça déjà, il faut l'accepter. Ensuite, moi je prône pas mal un regard à la fois humble et aussi sans jugement des pratiques des ados. C'est pas parce qu'on comprend pas ce qu'un ado fait sur Internet ou qu'on trouve ça stupide ou pas intéressant que ça l'est, en fait. Je veux dire, il y a plein de choses très positives que nous apportent les réseaux sociaux. Quand on parle d'Instagram, de YouTube, de TikTok, ouais, il y a des choses néfastes, mais il y a aussi des choses très sympas qu'on peut faire. Et moi, ce livre, je l'ai aussi écrit pour créer un dialogue, en fait. Oui. Parce que je pense vraiment qu'on manque de dialogue sur le numérique entre les adultes et les plus jeunes. Et de la même manière qu'on devrait pas juger les pratiques, même des personnes plus âgées d'ailleurs, hein, je veux dire, tout le monde a le droit d'aller sur Internet comme il l'entend, on devrait faire pareil pour les ados.
Oui.
Mais de quoi on parle quand on parle d'Internet ? Parce que vous voyez, moi forcément, pour moi, Internet, c'est pas forcément les réseaux. Quand vous dites Internet, c'est la vraie vie, vous voyez, moi, je vais pas forcément penser aux réseaux. Donc, quand on parle d'Internet, on parle de quoi ?
Bah, quand on parle d'Internet, en fait, on parle de plein de choses, effectivement. On parle déjà, je pense, de la société, parce qu'encore une fois, on est dans une société numérisée, et que quand on parle d'Internet, on va parler de Facebook, de Twitter, de YouTube, on va aussi parler, de Pôle emploi, des études en ligne. Donc c'est un peu ce grand ensemble, et il faut déjà accepter ça, en fait, qu'il n'y a pas vraiment il y a plus de frontières, en fait, entre Internet et la vie physique, et qu'il faut l'accepter, en fait.
Absolument. Et que le numérique fait partie de notre vie. C'est ça, en fait, moi, quand ce que j'ai compris, hein, le numérique fait partie de notre vie. On ne peut pas faire ça. Vous voulez remplir votre déclaration d'impôt, on passe par le numérique. Vous voulez avoir un rendez-vous avec votre médecin, n'est-ce pas ? On a vu cette période-là. Vous passez par le numérique. Vous voulez aider vos enfants à avoir du soutien scolaire, par exemple, vous allez passer par une plateforme qui propose du soutien scolaire, qui propose des cours en ligne, qui, avec un professeur qui est là, disponible pour lui. Ça, c'est dans tout ce qui est bon. En tout cas, moi, j'en ai fait l'expérience aussi avec mes enfants. Tout ce qui est bon dans l'Internet, c'est de pouvoir, j'ai besoin d'un livre, il est introuvable à la bibliothèque, à la médiathèque de ma ville. D'accord, ou à la bibliothèque universitaire. Bon, généralement, universitaire, on trouve pas mal de choses. Mais si elle est fermée et que j'ai besoin, je suis un étudiant et j'ai besoin de ce livre, je vais aller sur le net et le trouver. Voilà, et pouvoir le télécharger en PDF. Alors moi, c'est tous les bons usages. Maintenant, c'est vrai que Lucie, vous parlez des réseaux sociaux et des parce que on ne peut pas faire sans. Maintenant, qui n'est plus sur les réseaux sociaux ? Bon, je pose la question. Qui n'est pas ?
Moi, j'y suis.
Moi aussi, j'y suis. Philippe ?
Les quoi ?
Ah, d'accord, ok.
Non, mais moi, je ne suis pas parce que je suis snob.
Voilà, mais vous en êtes, vous le faites consciemment.
Par snobisme.
Voilà, mais donc...
Non,
mais
et puis parce que, franchement, je n'ai pas d'intérêt, mais bon...
Oui.
Voilà, ça ne me manque pas, et j'ai d'autres façons d'interagir, donc...
En fait, ce qui est important, je pense, de rappeler quand on parle d'Internet, c'est que le cyberespace est quand même dominé par des entreprises. On est face à un web qui est dominé par des très grosses entreprises.
On appelle ça les GAFA.
Voilà, en français, on appelle ça les GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon
mais
et parfois Microsoft.
Mais pourquoi si peu d'entreprises ? C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi il n'y a pas une plus grande diversité ? On va dire, par exemple, on va prendre ne serait-ce que les moteurs de recherche. Donc... est-ce qu'il n'y a pas une éducation à faire par rapport aux gamins d'aujourd'hui sur les moteurs de recherche à utiliser ?
Alors, je vais répondre à la première question. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi peu d'entreprises de la tech ? Quand on regarde en fait l'histoire de la Silicon Valley, de l'industrie du numérique, on a vu en fait petit à petit une grande concentration de ces entreprises. Donc ça, il y a plein de raisons pour cela. Et en gros, ces entreprises ont grossi en soit écrasant la concurrence, soit en la rachetant. Donc effectivement, actuellement, on est face à une situation qui est problématique en fait, hein, de ces entreprises qui dominent un peu notre vie et qui ont beaucoup de pouvoir en fait sur notre quotidien. Et moi, la raison pour laquelle j'insiste là-dessus, c'est qu'en fait, quand on parle de tous les effets positifs comme négatifs du web, en fait, il faut parler des logiques économiques de ces entreprises parce qu'elles ont des intérêts économiques en fait, hein, au travers de la gestion de nos données, de notre attention, etc. Et qu'il faut aussi s'intéresser à ça si on veut comprendre comment Internet ça fonctionne, quoi.
Donc, Internet, c'est a priori gratuit.
Alors,
mais ça l'est a priori parce que gratuit, ça n'existe pas.
Donc Internet, c'est effectivement la plupart des services en ligne sont gratuits. Il faut savoir que la plupart des plateformes, en fait, elles ont un modèle qu'on appelle un modèle publicitaire, c'est-à-dire pour le faire courte, que bah par exemple Facebook, son modèle économique, c'est d'avoir des espaces publicitaires qui vont afficher des réclames pour plein de trucs différents. En gros, Facebook va collecter des données personnelles sur vos habitudes de consommation. Donc ça va être, voilà, moi je m'appelle Lucie Ronfoy-Hazard, j'ai 30 ans, je suis née à Reims, j'aime beaucoup tel ou tel musicien, et puis souvent je vais lire Le Monde ou Libération, etc., etc. Donc c'est des infos qu'on va récolter sur les sites et en dehors. Et en gros, Facebook va faire un grand gloubi-boulga de toutes ces informations, va les anonymiser et va vendre mon profil. Alors c'est un profil, il n'y a pas écrit Lucie Ronfoy-Hazard, hein, c'est, je sais pas moi, internaute numéro tant. Oui. Et va vendre l'accès à ce profil à des annonceurs. Donc par exemple, voilà, moi je viens de Reims, si un annonceur, il y a l'office du tourisme de Reims qui veut faire une pub, bah il va payer Facebook pour afficher cette pub à Lucie Ronfoy-Hazard, quoi. Donc ça, c'est la base de la base. Et en fait, tout ça, c'est important de le savoir parce que du coup, l'intérêt de Facebook, de Google, de toutes ces entreprises-là, c'est qu'on reste le plus longtemps possible. Et comment est-ce qu'on reste le plus longtemps possible? En attirant notre attention. Et ça, ça explique plein de sujets. Enfin, par exemple, quand on parle, souvent les gens disent, oui, Internet, c'est très violent. Internet, il y a beaucoup de contenus voilà, qui nous mettent en colère, qui nous rendent agressifs, etc. Pourquoi? Parce que l'un des sentiments les plus forts qu'on peut ressentir en tant que personne, c'est la colère. C'est-à-dire être en colère, ça nous agrippe, quoi. Et du coup, l'une des raisons qui explique toute la désinformation autour de sujets typiques, voilà, l'immigration, l'insécurité, enfin tous ces sujets sur lesquels il y a des contenus parfois très violents, bah, c'est en partie à cause du modèle économique de Facebook.
Parce que la colère est plus vendeuse et nous fait rester plus longtemps?
Oui, que bah, par exemple la joie. Alors après, c'est pas une science exacte, hein, mais ça explique en partie pourquoi il y a des contenus très outranciers. Mais je vous dis ça pour la colère. Je peux aussi vous dire ça, par exemple, vous avez déjà vu des vidéos qui essaient de vous faire rire, mais qui sont un petit peu bizarres, un peu exagérées. C'est aussi pour ça que, par exemple, les youtubeurs, les contenus sur YouTube, quand on n'a pas l'habitude de YouTube, ils ont l'air un peu bizarres. Ils crient très fort, c'est un peu hystérique. Bah, c'est parce que voilà, on cherche toujours plus à attirer l'attention. Quoi.
Ouais, attirer l'attention et en fait à parler au cerveau limbique, au cerveau émotionnel, voilà, pour justement, comme on l'avait dit une fois, je me souviens, quand on par exemple, on avait donné l'exemple à un moment où il y avait beaucoup de manifestations en France, bon, il y en a encore, et qu'est-ce qui mobilise en fait? Une personne, elle est mobilisée à partir de quoi? C'est pas la joie, bah, le cerveau, il réagit par rapport à la joie, il va sécréter les hormones du bonheur, de l'ocytocine, de la sérotonine, d'accord, et des endorphines, d'accord. Donc ça veut dire que là, la personne, elle va plutôt être dans une énergie plutôt calme et plutôt dans l'apaisement, dans la paix. Elle cherche la paix. Par contre, quand on venait stimuler, donc toujours le cerveau émotionnel, avec un contenu qui va réveiller en fait ben, la colère, l'agressivité, la violence, la frustration. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le cerveau va envoyer l'information pour sécréter de la cortisol, de l'adrénaline. Et donc, c'est pas la pensée en fait qui va mobiliser la personne ou faire qu'elle va aller regarder encore plus de contenu. C'est quoi? C'est en fait l'émotion qui est suscitée derrière. Et donc, il y a toute une mise en scène, c'est ce que vous êtes en train de dire, Lucie, une mise en scène de tout ça pour justement, voilà, réveiller, mobiliser, bouger, et avoir envie de regarder encore plus, quoi.
Internet voilà. Aussi, c'est la vraie vie. La radio aussi, c'est la vraie vie. Et nous vivons avec vous jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
Alors, on parle de l'éducation à Internet ce matin avec notre invitée qui s'appelle Lucie Ronfoy-Hazard et qui vient de publier Internet aussi. C'est la vraie vie. Alors, ça s'adresse à qui, votre livre?
Alors, ça s'adresse d'abord aux ados.
Clairement, voilà, c'est ça.
Voilà, ouais, je l'ai clairement conçu comme ça. Et c'est vrai que moi, j'aimerais bien que ce livre puisse être lu dans les familles, mais aussi en bibliothèque, en collège, en lycée. Et puis, ça s'adresse aussi aux adultes, je pense. Enfin, j'espère.
Ah oui, oui, oui. En tout cas, ça m'a beaucoup parlé.
Bah c'est gentil.
J'ai appris plein de choses et du coup même par rapport à mon positionnement, une discussion avec mon fils qui a 18 ans et qui lui aussi il aime les réseaux, hein, et donc il est beaucoup sur Internet de par ses études et aussi parce que ça l'intéresse, et donc du coup à lui poser certaines questions dans ce que j'ai pu lire dans votre livre et de lui dire tiens tu penses quoi de ça toi, notamment TikTok, parce que pour moi TikTok c'est waouh.
Alors, quels sont les mystères de l'algorithme de TikTok ?
Voilà, justement.
Alors, les algorithmes, ça, c'est un vrai sujet. Ouais. Je pense qu'il faut qu'on en parle. Donc, pour les auditeurs qui ne sauraient pas, donc, un algorithme, pour le dire vite, c'est un programme informatique qui va être utilisé pour résoudre un problème. Donc, un algorithme, ça peut être, je sais pas moi, compte le nombre d'internautes sur un site ou ce genre de choses. La plupart du temps, quand on parle des réseaux sociaux et des algorithmes, on parle d'algorithmes de recommandation. Donc des programmes qui vont être codés pour nous recommander des contenus, et notamment les contenus qui seraient les plus susceptibles de nous intéresser. Donc par exemple, quand je vais sur Facebook, généralement, mon fil d'actualité, j'ai un contenu qui va être au-dessus, qui va être le contenu voilà que Facebook va juger le plus pertinent au regard de plein de données différentes. Ça peut être, par exemple, si j'ai une amie qui annonce qu'elle est enceinte, Facebook va repérer que c'est une information qui est très importante, donc va leur monter en haut. Donc ça, au départ, c'est...
C'est-à-dire que votre Facebook sait que votre amie dit qu'elle est enceinte.
Facebook est
Il arrive à lire ça.
Alors, il peut lire, par exemple... Alors, je ne sais pas s'il pourra comprendre qu'elle est enceinte. Par contre, il comprendra que c'est une info importante parce que va y avoir plein d'émojis cœurs, va y avoir plein de likes. Il va repérer que cette information est différente des autres. Voilà. Donc, un algorithme de recommandation, en soi, c'est pas forcément mal. Je veux dire, c'est censé nous faciliter la vie. Enfin, c'est un programme informatique. Le problème, c'est que on a tendance à considérer que ces algorithmes sont neutres, parce que c'est des mathématiques et qu'on se dit bon ben voilà, y a pas de mal à faire 1 + 1 = 2 quoi. Sauf qu'en fait, ces algorithmes peuvent en fait avoir des conséquences néfastes. Déjà, ils peuvent nous enfermer dans ce qu'on appelle des bulles de filtre. Donc les bulles de filtre, c'est un phénomène qu'on observe beaucoup sur les réseaux, qui est en gros, à force de nous recommander des choses qui pourraient nous plaire, on nous recommande toujours les mêmes choses. Donc, on nous enferme dans cette espèce de monde virtuel dans lequel tout le monde pense comme nous, tout le monde mange la même chose que nous, tout le monde écoute la même musique que nous, etc., etc. Donc ça, il y a différentes conséquences. Mais déjà, c'est pas très intéressant parce que pour la curiosité intellectuelle, par exemple, quand je vais sur Spotify, peut-être que j'aimerais bien pouvoir découvrir de nouvelles choses plutôt qu'écouter tout le temps la même musique. Voilà. Mmh. Et puis après, ça peut être embêtant en termes de, par exemple, politique. On a vu, typiquement pour l'extrême droite, c'est un truc qui a été beaucoup observé aux États-Unis, même en France, des gens qui s'enferment un peu dans des bulles, de gens qui pensent que comme eux et qui se radicalisent un peu sur ces sujets-là, quoi. Donc les algorithmes ne sont pas neutres.
Oui, et surtout à l'âge de l'adolescence, puisque votre livre, Lucie, il est dédié en fait aux adolescents et qu'ils soient enfermés là-dedans, dans cette bulle justement. Et dans votre livre, vous parlez de sur TikTok notamment. Pour ne pas la nommer, mais bon, sur TikTok, des enfants, par exemple, qui sont un peu dépressifs, des ados un peu dépressifs et un peu dans un mood un peu dark, un peu comme ça, et qui, du coup, TikTok va reproposer à chaque fois des contenus plutôt obscurs, sombres, notamment par rapport au suicide, par rapport... Et moi, franchement, j'ai été très alertée par rapport à ça, parce que c'est des situations que je rencontre sur le terrain aussi, et de dire que, les parents, il faut qu'ils soient conscients de ça, et le communiquer à l'ado, en parler avec lui, vraiment pour qu'il puisse développer un discernement par rapport à ça. Voilà, et je trouve que c'est fondamental.
Dis-moi comment ça fonctionne, et je t'expliquerai pourquoi il faut le savoir pour pouvoir justement te protéger de...
Exactement, même si tu as fait une recherche, parce que moi je me demandais aussi, mais à chaque fois je fais des recherches, moi je suis très dans le zen, dans le soin, le bien-être, le cerveau, et je me dis, mais c'est bizarre quand même qu'on me propose que ça. Du coup, j'ai compris. Je suis enfermée dans la bulle et donc du coup la diversité, l'ouverture au monde, voir qu'est-ce qui se passe ailleurs et comment et s'enrichir, du coup finalement plus du tout.
Mais alors on n'a toujours pas le secret de l'algorithme de TikTok. On a parlé des algorithmes. Qu'est-ce qu'il a de particulier l'algorithme de TikTok ?
Alors il faut savoir que les algorithmes des réseaux sociaux, donc y compris TikTok, on ne sait pas comment ils fonctionnent. En fait, c'est des secrets industriels que ces entreprises protègent. Et donc ça, c'est un vrai souci parce que ça, comme on vient de le dire, des vraies conséquences sur notre quotidien. Et nous, en tant que citoyens, si vous voulez, on peut pas ouvrir la boîte noire, quoi. Donc ça, c'est un vrai sujet. Donc il faut savoir qu'en France et en Europe, on a des législations qui sont assez en pointe sur les questions de numérique. Notamment au niveau de l'Union européenne, on vient de voter là un nouveau règlement qui va forcer les réseaux sociaux à communiquer en partie, en tout cas, comment fonctionnent ces algorithmes. Donc ça, c'est des questions importantes. Après, je peux pas vraiment vous répondre. En fait, je peux pas vraiment vous dire.
Mais pourquoi cette question, elle est soulevée de comment fonctionne l'algorithme de TikTok ? C'est parce qu'il y a des gens qui se sont demandé comment ils fonctionnaient.
Ouais, et de fait, ça interpelle beaucoup de gens, ça interpelle aussi beaucoup d'ados. Je vais vous citer un exemple assez concret. L'année dernière, il y a eu un mouvement de protestation d'utilisateurs et d'utilisatrices noires de TikTok, des Afro-Américains, qui, en fait, ont protesté en disant, bah, nous, on comprend pas, on fait des contenus qui sont aussi sympas que les autres, on fait, voilà, les danses de TikTok, enfin, tous ces trucs qui sont populaires, et on remarque qu'on n'est jamais mis en avant par les algorithmes de TikTok, qu'on a beaucoup moins de likes, beaucoup moins de commentaires, etc., etc. Et qu'en gros, eux, ils soupçonnent l'algorithme de TikTok de
d'être
mettre
raciste.
En avant d'être raciste, tout
ben
à fait,
oui,
de mettre, de, oui, de mettre en avant en fait que des utilisateurs et des utilisatrices blanches. Et de fait, ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup sur TikTok et ailleurs. On en vient à ces algorithmes de recommandation. Un algorithme en soi n'est pas mauvais, mais un algorithme en fait, va être porteur de tous les préjugés. D'une entreprise, des développeurs,
oui,
etc.
Voilà.
Et donc, à partir du moment où on est dans une société raciste, voilà, sexiste, grossophobe, islamophobe, tous ces préjugés qu'on a dans la vie, eh ben, en fait, on produit des algorithmes qui vont automatiser tous ces préjugés.
Ouais,
donc... alors, expliquez ce qui se passe pour les gros sur, justement, sur les réseaux.
Alors, typiquement, voilà. Donc, les personnes grosses existent. Il y en a plein dans la vie de tous les jours. On va dans la rue, il y a des gens gros. C'est, voilà, c'est la vie. Quand on va sur Instagram, quand on va sur TikTok, on ne voit quasiment pas de personnes grosses. C'est comme si elles n'existaient pas. Alors pourquoi ? Il y a deux choses. Un, il y a les algorithmes de recommandation qui, en fait, sont entraînés par les internautes à reconnaître ce qui est séduisant, entre guillemets. Et en fait, bah, vu qu'on est dans une société qui a tendance à dévaloriser les corps gros, eh bien, du coup, bah, Instagram ne va pas mettre en avant les contenus de personnes qui sont grosses. Donc ça, il y a un premier phénomène. Ensuite, il y en a un second qui est, malheureusement, les personnes grosses vont subir plus de violences en ligne que les personnes fines, notamment au travers de cyberharcèlement, de oui, commentaires injurieux, etc., etc. Donc là, on est face à la fois un phénomène technique qui
ça
est l'algo.
Ça, c'est la modération, là.
Ouais, mais en fait, les deux vont main dans la main. Parce qu'en fait, quand on parle des phénomènes néfastes des réseaux sociaux, il faut toujours penser à la technique et à l'humain. Par exemple, quand on parle du cyberharcèlement, il faut savoir que le cyberharcèlement touche en majorité les jeunes femmes, de la même manière que bah, dans la rue, malheureusement, les jeunes femmes ont plus de risques que les jeunes hommes de se faire agresser. Mmh. Et ça, je ne l'invente pas, hein, c'est vraiment il y a des études qui le prouvent. Plus on va faire partie d'une catégorie minorisée, donc voilà, je vais être une jeune femme noire, une jeune femme grosse, une jeune femme lesbienne, une jeune femme voilée, enfin des catégories minorisées, plus malheureusement on va subir de cyberharcèlement. Et donc on en revient à Internet, c'est la vraie vie.
Comme dans la vraie vie,
en fait. Bah ouais, malheureusement, ouais.
Malheureusement, bah oui, c'est le reflet, en fait, le miroir un petit peu hein, de ce qui se passe dans la vraie vie. Hein. Et c'est pas parce qu'on est derrière un écran, et souvent, c'est ce que disent hein, les ados, moi, quand je les reçois, ils me disent oui, mais c'est derrière l'écran, c'est rien, c'est pour rigoler. Quand c'est pour rigoler ou c'est juste pour voilà lancer une vanne ou pour se rendre intéressant ou pour se il y a plein de choses c'est dernièrement si vous avez suivi un petit peu même l'actualité le jeune garçon qui est un peu voilà il a voulu faire le buzz un petit peu et puis qui danse là qui twerk dans une église et qui a offusqué toutes les catholiques, les chrétiens et tout ça, et qui après, moi je regardais un petit peu parce que mes enfants m'ont dit, oh maman, regarde, il y a tout un truc. J'ai dit, ah bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, bon, mais ça, c'est des choses qui arrivent tous les jours, mais comme c'est sur les réseaux et qu'après, c'est un amplificateur de gens qui vont regarder, ceux qui vont liker, c'est on le disait tout à l'heure au début de l'émission, qui va susciter une émotion forte derrière, donc du coup, bah, moi je pense aux jeunes garçons, je me dis, mais c'est terrible ce qui lui tombe dessus.
En fait, on se rend pas compte de la réalité des violences en ligne. Et ça, oui. Vu que là, on parle en partie à des parents, je veux insister là-dessus. Un enfant ou un ado qui est cyberharcelé, ça sert à rien de lui dire « débranche Facebook, t'inquiète, ça va passer ». Une violence en ligne, c'est une vraie violence. C'est, oui. Et c'est vraiment, c'est très difficile à subir. C'est isolant. Et en plus, par ailleurs, c'est illégal. Vraiment, faut insister là-dessus. On a des lois en France qui protègent, en théorie, les gens de toute violence en ligne, y compris les violences caractérisées, type sexisme, racisme, etc. Donc là encore, Internet, c'est la vraie vie, dans le bon comme dans le mauvais. Et bah là, dans le mauvais, oui.
Et c'est même pire, je crois, Lucie, parce que moi, en tout cas, pour avoir accompagné des jeunes adolescentes, des collégiennes, qui ont subi justement parce qu'il y a une photo qui est sortie d'elle et qui est, je veux dire, dans une, elle n'était pas à son avantage, d'accord. Par exemple, je me souviens d'une jeune fille qui avait le pantalon mouillé. Tout le monde ah ben elle a fait pipi sur elle, donc ça a fait le tour avec Snapchat. C'était il y a quelques années, TikTok n'était pas encore aussi présent et ça a fait le tour du collège. Donc du coup, je veux plus aller là-bas. Et quand j'ai parlé avec elle, je lui dis mais qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui se passe?
Parce que nous aussi, on découvre aussi ça. Donc, il faut l'accompagner, développer des outils, nous, en tant que professionnels, et les parents aussi, pour accompagner les enfants, les ados. Et elle me dit, vous savez, Karima, elle m'a dit, j'aurais préféré recevoir une gifle. Et elle me dit, bah, au moins la gifle, j'aurais eu la gifle en temps réel, comme ça, voilà, elle serait arrivée. Mmh. Et bah, voilà, j'aurais eu chaud, là, j'aurais eu mal. Mais voilà, mais j'aurais pu la gérer. Mais là, je gère rien. Je peux plus, je contrôle rien. Et elle pleurait, elle me dit, mais vous imaginez, ma photo qui a fait le tour du collège, des copains, donc je peux plus sortir dans le voisinage. Et je lui dis, écoute, je lui dis, est-ce que t'as réellement fait pipi sur toi? Et elle me dit, non, en fait, on sortait, on s'est amusé de l'eau et quelqu'un a mis ça. Et donc voilà, elle m'a dit, mais vous imaginez mon image, nanani, nanana. Bref, c'était assez violent pour elle. Et elle me dit, j'aurais préféré recevoir une claque plutôt que de vivre ça.
Cette humiliation.
Exactement. Parce qu'elle n'a pas de fin, elle ne s'arrête pas. À quel moment ça s'arrête?
Alors, Lucie, moi, j'ai été surpris de lire que l'anonymat, comme on le croit, n'existe pas.
L'anonymat sur Internet, c'est un peu un mythe, effectivement.
Sur Twitter, j'ai quand même l'impression que beaucoup de gens sont anonymes, quand même.
Alors, en fait, il faut distinguer deux choses. Il y a l'anonymat et il y a le pseudonymat. Le pseudonymat, c'est le fait d'utiliser un pseudo pour masquer son identité. Ça existe, effectivement, sur Twitter. J'ai le droit d'utiliser un pseudo pour faire ce que je veux. Cela étant dit, si par exemple j'utilise un compte Twitter sous pseudo et que je vais aller attaquer une personne en la menaçant de mort ou un truc comme ça, en fait cette personne peut aller appeler la police et la police, elle a le droit d'appeler Twitter et de retrouver cette personne. Donc en ce sens-là, l'anonymat n'existe pas. Après, ce qui est intéressant, c'est que souvent quand on parle de harcèlement en ligne ou de violence ou de je sais pas quoi, on va dire oui mais si les gens n'étaient pas anonymes, s'ils utilisaient leur vrai prénom et leur vrai nom, il y aurait plus de violence en ligne. Et ça, en fait, ça se vérifie pas vraiment, malheureusement.
Même si c'est quand même plus facile d'être violent quand on n'est pas apparent.
Oui et non, parce qu'en fait, je sais pas, vous allez sur n'importe quelle page Facebook d'un média, sur des sujets un peu chauds, vous voyez plein de gens qui ont des tenues, qui ont des propos abjects, sous leur vrai prénom, sous leur vrai nom.
Démasqués.
Hein. Bah ouais. Donc en fait, voilà, donc l'anonymat n'existe pas vraiment, et l'anonymat ne protège pas vraiment, en fait, qui que ce soit.
Hein. Non, mais parce que même quand ils mettent leur vrai prénom, et qu'ils mettent un commentaire abject, insultant, humiliant. Bah, les gens, ils se disent, non, bon, parce qu'ils connaissent pas la loi. Ils se disent, bon, c'est rien, on craint rien, j'ai juste écrit un truc comme ça. Voilà, il y a une déferlante. En tout cas, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'ils disent, bon, ça, je pense qu'ils n'ont pas, parce que c'est derrière un écran, c'est pas face à face, en présence. Donc, ça veut dire, bah, je suis protégée par mon écran. Même quand j'affiche mon nom. C'est-à-dire l'impunité. La plupart des jeunes me le disent, bah ouais, bah c'est juste sur le net.
Pas vu, pas pris.
Pas vu, bah voilà, exactement.
Il y a un sentiment d'impunité qui est malheureusement en partie justifié par le fait que la police est encore très mal formée à ces sujets. Encore une fois, les lois existent, le problème c'est qu'elles sont mal appliquées. Mmh. Et que, bah, par exemple, une victime de harcèlement en ligne, elle va à la gendarmerie ou à la police, bah elle a des risques d'être mal reçue, quoi. Donc après, ça, y a des associations qui essayent d'améliorer les choses, mais c'est un vrai souci. Oui.
Lucie Ronfaux-Hazard, vous publiez Internet aussi, c'est La Vraie Vie aux éditions La Ville qui brûlait. On en parle jusqu'à 10h.
AVS revient dans un instant. 9h-10h, AVS avec Philippe Robichon.
L'éducation à Internet, ça fait partie aussi des prérogatives des parents, comme beaucoup de modèles qu'on doit transmettre à nos enfants. Nous avons Lucie Ronfaux-Hazard qui est avec nous, qui est journaliste spécialisée en nouvelles technologies et qui publie Internet aussi. C'est La Vraie Vie aux éditions La Ville Brûle. Et puis Karima Shadibaou est avec nous. On l'a compris, ce qui vaut de l'argent pour toutes ces entreprises, ce sont les données, nos données, ces données qu'elles collectent et qu'elles revendent. Donc maintenant, quand on parle d'éducation et qu'on va transmettre à nos enfants, comment dire ce qu'il faut donner comme information et qu'est-ce qu'il ne faut pas donner comme information, alors qu'on doit s'inscrire et quasiment partout on vous demande de remplir des champs.
Déjà, il y a un truc bête et méchant, c'est déjà d'avoir cette discussion. Parce que je pense qu'en fait, il y a beaucoup de parents qui n'ont pas cette discussion sur les données, sur ce qu'on peut mettre, etc. Donc, moi, je pense qu'il peut y avoir un dialogue sur ce sujet de, est-ce que tu as besoin de mettre ton nom et ton prénom sur, Twitter ou je ne sais quoi. Est-ce que si je veux avoir un compte Instagram, est-ce que j' ai besoin d'avoir un compte Instagram public? Par exemple, moi, je connais des parents, ils autorisent leurs enfants à avoir un compte Instagram, mais uniquement en privé. Mmh. Alors, donc, pour ceux qui ne savent pas, donc, sur Instagram et Twitter aussi, d'ailleurs, proposent d'avoir des comptes, ce qu'on appelle privés, donc accessibles uniquement aux personnes qui s'abonnent. Donc ça, par exemple, c'est une manière de protéger un peu l'ado en limitant un peu son monde virtuel à ses copains, quoi. Donc il y a des solutions, enfin c'est comment dire, on sent souvent dépourvu sur internet et c'est normal parce que c'est très vaste, mais il y a quand même des petites solutions à mettre en place, quoi.
L'importance aussi d'avoir d'installer ce qu'on appelle nous, enfin avec Leïla, hein, on avait animé
votre sœur.
Oui, Leïla, ma sœur, et qui est aussi thérapeute. Et on avait trouvé, en fait, en travaillant sur les écrans, et parce que de toute façon, comme vous l'avez dit, Lucie, au début de l'émission, on ne peut pas faire sans, c'est pas possible. Donc, on va plutôt s'adapter et installer, en fait, des règles. Des règles, déjà, partager l'information avec les enfants et de leur dire, voilà, ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas faire, ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Voilà, il y a plein de bonnes choses sur Internet. Il y a plein, tu vas découvrir énorme, c'est un monde à lui tout seul, un univers. D'accord? Et voilà. Et dans cet univers, il y a certaines règles. Il y a, comme quand tu prends, la voiture, il y a le code de la route.
Il y a le code de circulation.
Le code de circulation.
Alors, vous appelez ça le pacte. Donc,
le pacte. Donc, P pour partager. On partage ensemble les informations. A pour agir. On agit avec son enfant et c'est-à-dire qu'on va installer, en fait, un environnement. D'accord, parce que on est aussi accro, et tout à l'heure on parlait de ce qu'on incarne ou ce qu'on n'incarne pas. L'enfant va reproduire ce qu'on fait. Donc si on a toute la journée notre tablette ou notre téléphone à la main, il est greffé à la main, on va pas s'étonner que l'enfant il ait aussi son téléphone greffé à la main. Donc on va agir dans le sens où incarner les règles de partage qu'on a installées. Ça c'est le C pour coopérer. On est là pour coopérer ensemble, d'accord ? C'est la collaboration et pas « je donne un ordre et tu obéis ». Vous savez, Philippe, que je suis dans l'autorité bienveillante. D'accord ?
Dans autorité bienveillante, il y a autorité.
Autorité, c'est la structure. Il y a, des règles.
La bienveillance, aujourd'hui, c'est sur toutes les sauces.
Non. Moi, la bienveillance, c'est veiller à ce que tout soit bien. C'est ça, pour moi, la bienveillance.
Ah, vous vous en sortez bien.
C'est veiller à ce que tout soit bien. Et pour que ce soit bien, il faut des règles.
Bon,
c'est clair.
On a le C.
Donc, on a le C. Le T pour tempérance. La tempérance. Vraiment, vous allez donner un temps. Je te dis, tu vas rester le fameux temps devant ton écran. On le respecte. D'accord ? Et selon les âges. Et c'est vraiment dans cette tempérance, c'est vraiment un équilibre. Et selon le besoin de l'enfant aussi, s'il a du travail à faire. Parce que maintenant, il y a le cartable, comment ils appellent ça ? Le cartable électronique. Donc le cartable électronique. Et ce cartable électronique, il marche avec l'ordinateur. On a vu avec la crise du Covid, Philippe et Lucie, où il y avait l'école à la maison, où on avait besoin d'avoir un ordinateur, faire des recherches, et donc l'Internet. Donc ça, c'était pour le T, tempérance, et le E pour enseigner. Enseigner, on est là pour vraiment être des guides pour nos enfants, et ils vont apprendre des choses, aussi bien les choses positives que les choses négatives, c'est-à-dire en tirer des leçons. Voilà pour le pacte.
Moi, je dirais qu'il ne faut pas hésiter d'être curieux, en fait, de ce que son enfant fait sur Internet. Évidemment, un ado a le droit à son jardin secret. Je pense que c'est important et ça l'a toujours été, y compris sur Internet. Mais je pense que beaucoup de parents ont tendance à un peu juger ou mépriser un peu ce que fait l'enfant sur Internet. Alors qu'en fait, si on voit, que son adolescente passe 2 heures par jour sur TikTok, pourquoi pas lui demander... qu'est-ce que tu regardes sur TikTok? C'est quoi ton compte préféré? Pourquoi ça te fait marrer? Pourquoi tu rigoles? Parce qu'en fait, peut-être que vous allez découvrir des choses amusantes, intéressantes, et puis ça va créer, encore une fois, un dialogue
du lien
avec votre ado.
Exactement, créer le lien. Comme vous le dites, l'Internet aussi, c'est la vraie vie. Il y a du lien avec... quand il suit... Moi, je me souviens quand mes filles étaient beaucoup plus jeunes et qu'elles suivaient des influenceuses et tout. Alors moi, que j'aimais pas du tout, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'elles m'ont... Enfin, voilà, moi, pour moi, c'est une perte de temps. Mais bon, moi, je suis de la vieille génération. Moi, j'ai pas grandi avec ça. J'ai appris, Et elles me disaient, oui, mais regarde, maman, ça... notamment sur le make-up, sur les trucs. Je dis, alors déjà ça... Bref, j'ai un avis assez arrêté là-dessus, d'accord ? Que je ne dirai pas ici. Mais voilà, et donc du coup j'ai fait preuve de curiosité pour découvrir ce monde. Tiens, ces influenceuses, en quoi elles t'inspirent, en quoi tu as envie de leur ressembler, qu'est-ce qu'elles diffusent comme pensée, qu'est-ce qu'elles diffusent comme valeur, qu'est-ce qu'elles incarnent comme valeur. Et sur la plupart, surtout celles avec lesquelles j'étais pas très ok, du coup, en parlant de valeur, je dis, mais tu as appris quoi avec elles? T'es resté 2 heures, t'as appris quoi? Elle me dit, en fait, rien. Je dis, ok, voilà.
Et
elle me dit, ouais, c'est vrai. Alors, moi, je dis, c'est toi qui as dit ça, moi, j'ai rien dit.
C'est vrai qu'en fait, on parle beaucoup du temps d'écran quand on parle des pratiques des ados en ligne. Et je pense que c'est un peu une notion qui est traître, parce qu'en fait, dans le temps d'écran, c'est pas la même chose de passer 5 heures à regarder, un replay de jeu vidéo sur YouTube, par exemple, oui. que de faire sa vidéo YouTube, par exemple. Parce que oui. là, on est dans une activité qui est créatrice, qui est active, qui est pas passive. Donc, il faut aussi réussir à dépasser un peu ce côté compter les heures et voir ce qu'on fait, en fait, sur Internet.
Absolument.
Vous avez parlé des jeux vidéo et vous posez une question. Est-ce que les filles jouent aussi aux jeux vidéo?
Oui.
Pourquoi vous posez cette question?
Bah parce que je pense que c'est encore un sujet un peu, enfin pas tabou, mais que des garçons notamment se posent. Alors moi, voilà, je suis une fille, je joue aux jeux vidéo. Et qu'en fait, être une fille qui joue aux jeux vidéo, c'est subir pas mal de harcèlement, de mépris, etc. Alors que, ouais. Alors qu'en fait, c'est une pratique qui est très commune à beaucoup de jeunes femmes. Hein. Les stats montrent que 50% des gamers sont des gameuses. Et puis c'est une pratique qui est assez sympa, en fait. Hein. Il y a plein de jeux vidéo super sur lesquels passer du temps. Donc c'est pour ça que je voulais faire un chapitre là-dessus pour voilà aller un peu au-delà de ce cliché que tous les gamers seraient pour le caricaturer des jeunes garçons qui regardent des jeux de guerre. C'est pas vrai.
Non, bah, moi je joue, hein. Avec mes filles aussi, je joue aux jeux vidéo. Moi, j'aime bien.
Il y a des mythes qui s'effondrent.
Des clichés.
Moi, j'aime bien, je fais des courses. Bon, le foot, je sais pas, parce que mon fils me dit tout le temps, maman, fais une partie avec moi et tout. Je dis, écoute, moi, je connais rien au foot. Voilà, je préfère regarder. Et voilà. Mais d'autres jeux, oui, j'aime bien faire des courses, des trucs comme ça, j'aime bien.
Alors, est-ce que Internet est dans notre tête? C'est une question que vous vous posez peut-être, vous aussi. Parfois, il vous est arrivé de penser à quelque chose sans en avoir jamais parlé à personne. Et le lendemain, bim. Sur votre téléphone, sur votre écran, vous voyez une publicité sur le sujet dont vous avez rêvé.
Plusieurs publicités.
Bon, alors, ça marche comment? Ça, vous nous expliquez?
Alors.
Parce que, par exemple, j'ai une chroniqueuse d'émission qui parle beaucoup d'éducation, qui rêvait d'un monte-escalier, parce qu'elle a du mal à monter ses escaliers.
Donc, elle
n'en avait parlé à personne. Elle n'en avait parlé à personne. Et le lendemain, elle se retrouve avec ses publicités de monte-escalier.
Alors.
Est-ce qu'ils nous écoutent? Est-ce qu'ils nous.
Alors, je vais faire une première réponse. Il n'y a rien qui prouve aujourd'hui que notre smartphone nous écoute. Ça, vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est une peur qu'on a beaucoup, mais il y a rien qui prouve, il y a pas eu d'enquête, de machin. Pourtant, il y a eu beaucoup de révélations sur les réseaux sociaux. Rien ne prouve que Facebook nous écoute. En revanche, ce dont on se rend pas compte, c'est que Facebook et les autres plateformes, je vais pas citer que Facebook, nous surveillent partout. Pas seulement dans l'enceinte de Facebook. En fait, tous nos comportements en dehors de ces réseaux sociaux sont suivis pour aller dans le sens de ce fameux modèle publicitaire.
D'accord, mais Karima, votre monte-escalier...
J'ai compris parce qu'en fait, donc moi j'ai la géolocalisation et j'utilise donc le plan de Google, Waze, je sais plus quoi. Voilà, ma fille me dit non, utilise plus Waze. Je sais pas si on dit comme ça d'ailleurs.
Waze, oui.
Voilà, parce que j'ai été, quand j'en ai parlé après à mon mari.
Ah, vous êtes allée chez la Berry?
J'étais chez le Roi Merlin, Bricorama. Il faut en citer plusieurs pour pour aller, pour regarder un petit peu. Et donc ils savent que je fais ils m'ont localisé dans un truc de bricolage.
Donc ça, c'est un vrai sujet.
Je pense que c'est ça.
Ça, c'est un vrai sujet. Les données de géolocalisation, vos cartes de fidélité, ce que vous regardez sur Internet, les articles que vous lisez, etc. Tout ça, ce sont tout un tas de données qu'on peut exploiter pour faire de la pub. Alors, il faut savoir qu'en France et en Europe, on est un tout petit peu mieux protégé qu'ailleurs, que par exemple aux États-Unis. Et en France, on a ce qu'on appelle le RGPD, c'est le règlement de protection des données, qui nous donne droit, nous citoyens, à supprimer des données et à demander en fait à savoir quel type de données sont collectées sur nous. Alors, c'est tout un processus. Si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller sur le site de la CNIL, qui est le gendarme des données personnelles en France, ils ont toutes plein de petits tutos pour vous expliquer, mais on a le droit aujourd'hui, d'accepter ou non le traitement de nos données. Alors, je vais pas vous mentir, c'est pas facile, hein, parce que le problème, c'est quand on doit accepter oui ou non pour chaque site, en fait, on n'en a pas fini et on finit de fait par accepter. Mais il y a de fait cette toile d'araignée de données qui est un peu infinie, quoi. Mais du coup, on a l'impression qu'on nous écoute. En fait, ils n'ont pas besoin de nous écouter pour savoir ce qu'on fait.
Intéressant à savoir. Ouais. Vous m'avez dit tout à l'heure que créer une adresse mail sur Gmail, sur gmail.com en France, c'était pas la même chose qu'aux États-Unis. C'est quoi qui est différent?
La réglementation.
C'est pareil, c'est ça?
On n'a pas. En gros, Google et tous les autres plateformes doivent nous demander notre autorisation pour traiter nos données, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays.
Pour un enfant, là, aujourd'hui qui n'a pas d'adresse mail encore, qui vraiment démarre avec une page vierge, quels sont les conseils que vous donnez?
Alors déjà, moi, le premier conseil que je donne aux parents, ne mettez pas de photos de vos enfants quand ils sont tout petits sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, on est face à des générations qui vont avoir toute leur vie documentée en ligne, sans leur consentement, a priori, puisqu'ils sont tout petits. Et moi, j'ai tendance à être un petit peu stricte. Faire un peu attention à ces sujets-là. Donc ça, c'est un sujet pour les parents. Pour les ados, alors il faut savoir que légalement, normalement, on n'a pas le droit d'avoir un compte sur les réseaux sociaux avant 13 ans. Oui. Ça, c'est la loi en France et en Europe. Dans les faits, on sait que les ados y vont avant, c'est 13 ans et c'est pour une raison. Moi, j'ai tendance à conseiller, quand un ado commence à aller sur Internet, privilégier les pseudos. Vraiment, plutôt qu'il se mette sur son vrai prénom et son vrai nom, conseillez-lui de commencer par un pseudo, de mettre une image, son personnage de manga préféré en avatar. Il n'est pas obligé de s'exposer complètement, quoi. On peut se protéger avec les moyens du bord.
C'est ça ce qu'il faut retenir. Et la suite est dans votre livre Internet aussi, c'est la vraie vie. Vous allez pouvoir réécouter l'émission en podcast sur beurrefm.net et voir la vidéo sur notre chaîne YouTube. Merci Lucie d'avoir été avec nous. Karima, on se retrouve mercredi.
Avec plaisir.
Et bon matin à tous.
Et bon matin.
Bon matin, santé à tous sur Beurre FM.
Retrouvez AVS tous les jours de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.